Pendant la campagne électorale de Nelson Mandela en 1994, une des grandes innovations et promesses fut la construction et la distribution de maisons pour tous et tout le monde. Cette initiative a vu le jour dans les années suivantes et plusieurs nouvelles petites villes sont nées un peu partout en Afrique du Sud. Ces maisons sont appelées RDP car elles font partie du programme gouvernemental Reconstruction and Development Program ou Programme de reconstruction et de développement. Cependant, et malgré le fait que ces maisons ont été construites tout particulièrement pour les sans-logis, pour les plus démunis, aujourd'hui, ces gens se font expulser cavalièrement de leur maison par manque de ressources et se retrouvent ainsi sans abri à nouveau. Alors, on a avec nous Marcia Ribeiro qui est à Durban en Afrique du Sud. Bonjour Marcia.
Bonjour Patrick.
Alors, tu nous expliques la situation. Quelles sont en fait ces maisons-là du Reconstruction and Development Program?
Oui, alors Patrick, c'est une maison appelée RDP. Donc, c'est une maison, ça fait partie du programme depuis 1994 de l'ANC, du Parti québécois. Et c'est une initiative de distribuer des maisons à tous ces gens qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas de logis, qui habitaient, entre autres, dans des petites cabanes qu'eux-mêmes, ils avaient construites. Donc, c'est des maisons toutes petites. C'est l'équivalent d'un 3,5 à Montréal. Par contre, c'est des maisons qui sont indépendantes. C'est, entre autres, une fenêtre, une porte, tout simplement. Et malgré le fait que c'est une initiative très positive, ces maisons-là ne correspondent pas nécessairement aux besoins de la population, car la population africaine, c'est-à-dire une famille africaine, a en moyenne 6 membres dans leur famille, alors que la maison, un 3,5, il n'y a pas vraiment 6 membres qui rentrent dedans. Cependant, les gens ont adhéré à ce nouveau programme avec plaisir, et entre-temps, au fil des ans, ils se sont construits des petites cabanes à côté, un peu comme ils avaient avant, pour loger les membres de leur famille, vu que la maison était un peu petite.
Et comment, comment le gouvernement sud-africain décide-t-il de l'attribution des maisons parmi les familles qui en ont besoin?
Oui, alors ces maisons, c'est un peu comme si on avait un prêt étudiant au Québec, c'est-à-dire le gouvernement garantit les fonds et puis les gens ils doivent s'arranger pour le payer après avoir fini leurs études. Ce qui arrive aussi avec ces maisons-là, c'est que le gouvernement garantit les fonds, donc tout le monde est admissible à leur maison. Et puis, la banque, donc ils font un prêt à la banque va ajuster le prêt selon tes capacités de paiement. C'est-à-dire que si je reçois 600 $ par mois, donc si je suis capable seulement de payer 100, la banque va accepter que je paye 100 $ par mois pour payer mon hypothèque. Donc, ça a l'air très bien. Le problème avec ça, c'est que les gens, vont payer un intérêt beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, moins tu es capable de payer, plus d'intérêt tu vas falloir que tu payes. Et plus longtemps tu as payé ta maison. Tandis que nous, au Québec, on peut avoir une hypothèque de 25 ans, bien ici, tu as payé toute ta vie. C'est jusqu'à ce que tu finisses de payer la maison. Et comme ta capacité de paiement n'est pas très élevée, ça peut durer justement toute une vie.
Et puis, quelle est justement la situation de ces familles-là qui profitent du Reconstruction and Development Program? Quel est leur quotidien à ces gens-là?
Oui, bon, ces maisons ont été construites un peu, donc l'initiative a pris a eu lieu en 1994, puis mettons qu'elles ont été construites en 96, 97, à l'entour de ça. À ce moment-là, les gens, ils avaient encore de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils travaillaient, donc ils pouvaient payer mal ou bien leur hypothèque à la fin du mois. Ce qui arrive aujourd'hui, avec les privatisations qui ont eu lieu partout au pays, les gens, beaucoup de monde ont perdu leur travail. Les gens se trouvent sans travail, sans capacité de payer leur maison. Donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est que dès que tu manques un paiement, la banque s'arrange pour pouvoir évacuer de la maison. Donc, les gens doivent quitter leur maison par manque de paiement, par manque de capacité de paiement.
Et puis comment les familles réagissent-elles à ces expulsions-là?
Bon, c'est sûr que personne ne veut se faire expulser de leur maison. D'ailleurs, ils crient haut et fort que c'est pas de leur faute, c'est le gouvernement qui leur a enlevé leur emploi. Et qu'ils veulent avoir un emploi, c'est juste qu'il n'y en a pas d'emploi, donc ils ne peuvent pas payer leur maison. Et donc, ces gens se retrouvent sans aucune alternative parce que la banque arrive. En fait, c'est pas la banque, c'est que la banque demande officiellement à la cour un papier comme quoi ces gens-là doivent quitter leur maison. Et donc, ces gens-là, ils n'ont aucune autre alternative, ils n'ont pas de place à aller. Ils vont se retrouver cette fois-là dehors, dans la rue, alors qu'avant, ils avaient au moins leur petite cabane quelque part où est-ce qu'ils pouvaient rester. Donc, les gens sont très, très fâchés avec les procédures et, évidemment, ils réagissent à ça. Et ce qu'ils font, c'est comme une grande majorité de la population se retrouve dans cette situation. Bon, il y a un esprit de solidarité qui est mis à l'intérieur de la communauté. Et dès qu'un officier arrive devant une maison pour expulser les gens, bon, toute la communauté descend devant la maison et puis, solidairement, ils se tiennent ensemble, ils empêchent qui que ce soit de rentrer dans la maison et d'enlever les meubles et d'expulser ces gens. Donc, c'est comme un nouveau mouvement qui est né dans ces communautés-là. D'ailleurs, il y a un nom pour ça qui s'appelle Anti-Eviction Campaign, donc c'est un mouvement anti-expulsion qui est né et qui, justement, leur mandat essentiel, c'est ça, c'est d'appeler à la solidarité à l'intérieur de la communauté pour empêcher que les gens soient évacués de leur maison.
Et suite à ce mouvement de solidarité-là, est-ce que quand même tout le monde a réussi à garder sa maison, à éviter l'expulsion, ou il y a quand même eu des expulsions, là?
Oui, malgré l'effort, je pense que ce mouvement-là est grandi au fur et à mesure que ça arrive, que les gens réussissent à garder leur maison. Beaucoup de monde réussit à garder leur maison, mais c'est une bataille qui peut durer des semaines. Donc, c'est-à-dire que ça ne fait pas dans la même journée. L'officier reviendra le lendemain. Et le lendemain, il faut que la communauté soit là. Et donc, c'est ce qui arrive. J'ai assisté à une situation du genre. Les gens vraiment restent, ils chantent, ils font de la bouffe ensemble. Et puis, ils restent là le temps nécessaire pour empêcher l'évacuation. Cependant, il arrive parfois que la banque réussit à expulser ces gens-là. Et donc, ces gens se retrouvent dans la rue. Et puis, ça devient un problème de la communauté qui va devoir loger cette famille qui vient de se faire expulser dans leur propre maison, alors que ces maisons sont, comme j'avais dit au début, à 3,5. Il y a déjà 6 personnes qui habitent dedans. Donc, recevoir une autre famille de 6 membres, c'est un peu, des fois, difficile à gérer. Et ce qui est le plus ridicule dans cette situation-là, c'est que la banque, une fois qu'elle a acquis la maison, elle veut s'en débarrasser parce que ça devient un problème. Alors, il y a eu une nouvelle méthode, c'est une agence immobilière qui est née, plusieurs agences immobilières. Donc, c'est-à-dire que la banque a fait comme un transfert de vente de la maison à l'agence immobilière qui, par la suite, va essayer de revendre ça à une autre famille qui va avoir plus ou moins les capacités de l'acheter. Ces maisons-là, ces transferts de maisons se font par un montant ridicule de 2 $ canadiens. Donc, toute la question est là et tout le mouvement maintenant se pose vers cette question, c'est que comment la banque veut empêcher ces gens-là de vivre dans leur maison alors que la banque va simplement la vendre à 2 $ canadiens. Donc, c'est complètement ridicule, c'est un transfert complètement ridicule qui se fait à tous les jours dans la cour municipale du quartier où la maison a été expulsée.
Alors, vous êtes toujours à Durban, en Afrique du Sud. Quelles vont être les prochaines étapes de votre reportage en Afrique, Marcia?
Oui, peut-être. Alors, bon, nous sommes à notre fin de séjour en Afrique du Sud. Nous partons la semaine prochaine pour Mozambique, Maputo. Nous avons l'intention de rencontrer d'autres personnes, évidemment, des gens qui, à chaque jour, font face à des injustices. Et qui s'organisent pour battre ça et pour organiser une façon de vivre meilleure. Évidemment, à Maputo, les choses ne se passent pas comme ici ou à Durban ou au Cap où nous sommes restés. Donc, on attend recevoir d'autres, voir d'autres choses et surtout apprendre d'autres façons de faire face à d'autres problèmes aussi.
OK, alors on se reparle bientôt, Marcia. Je te remercie de ton reportage et puis ben, je te souhaite quand même une bonne continuation.
Merci, Patrick.
Au revoir, Marcia.
Merci.
Alors, soulignons que le projet Nouvelle Mouvance qu'anime Marcia Ribeiro et le collaborateur de Planète Internationale, Roberto Nieto, est rendu possible grâce au concours de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international.